Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Approfondir, intégrer, faire converger, ce sont les objectifs du traité franco-allemand signé aujourd'hui à Aix-la-Chapelle par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il s'agit de porter à un niveau supérieur les relations entre la France et l'Allemagne, 56 ans après le traité de l'Elysée signé par Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Mais malgré ces démonstrations d'amitié et de volonté de rapprochement, le ciel n'est pas toujours sans nuage entre Paris et Berlin. Ce traité voulu par le président français est une réponse à ses propositions de refondation d'une Europe qui ne tient toujours pas toujours à suivre le mouvement de l'axe franco-allemand. L'axe franco-allemand, justement, est-il toujours aussi pertinent? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Béatrice Engrand, bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes depuis 2009 secrétaire général de l'OFAJ, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a été créé par le traité de l'Elysée il y a 56 ans, et spécialiste des relations franco-allemandes. Et Jens Althoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll. C'est un centre de réflexion dont les travaux et projets portent sur l'écologie, la durabilité, la démocratie et l'Europe. On a beaucoup entendu de choses ces derniers temps sur ce nouveau traité, parfois n'importe quoi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais finalement, qu'apporte-t-il de nouveau dans les relations entre la France et l'Allemagne, Béatrice Engrand?
Oui, ce que je retiens, moi j'ai eu la chance d'être à Aix-la-Chapelle aujourd'hui, donc j'en reviens. Ce que je retiens, c'est que alors qu'on avait un très beau traité de l'Élysée 1963, qui était avant tout un texte destiné à donner un cadre pour une relation bilatérale, et finalement d'encourager la réconciliation. Aujourd'hui, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est plutôt un document qui place cette relation résolument au service de l'Europe. Et là, je crois que c'est ça le pas qui est fait. On passe du bilatéral à l'européen. C'est ce que je dirais premier chef.
Jens Althoff, finalement, il ne s'agit pas de formaliser des choses qui se font déjà, il y a des conseils des ministres communs, des parlementaires qui se déplacent, des consultations avant chaque conseil européen. Est-ce que finalement, c'est pas mettre en forme ce qui est déjà inscrit dans les faits depuis quelques années maintenant?
C'est quand même un traité qui vise à renforcer la coopération franco-allemande. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est aussi, par exemple, dans la politique de défense et de sécurité. Là, c'est quand même assez renforcé avec ce qui est maintenant dans ce traité. Il y a aussi d'autres éléments qui souvent sont pas tellement discutés en ce moment. Par exemple, ce qui est très important, aussi plus de coopération pour tout ce qui est politique de développement entre les deux pays. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Vous avez d'autres éléments où il y a quand même des petits pas, plutôt, pour renforcer la coopération. Quand même, il me semble, on doit dire que c'est quand même une opportunité ratée, aujourd'hui, qu'on voit avec ce contrat.
Une opportunité ratée pour quelle raison, en fait?
Une opportunité ratée parce qu'on est quand même au début d'une année qui est très très importante pour l'Europe, avec les élections européennes en mai, avec la formation de nouvelles commissions européennes. Et là, il aurait dû avoir un traité qui vraiment pousse, qui vraiment met le tandem franco-allemand dans une situation, être une locomotive qui peut tirer vraiment l'Europe. Mais là, il y a des grandes questions, des questions qui sont vraiment importantes, qui justement pas vraiment traitées dans ce traité. Donc, par exemple, sur la politique économique et sociale, il y a des objectifs, mais pas des mesures concrètes. Ce qui manque, par exemple, c'est vraiment la question de la transformation écologique. Mmh. C'est mentionné, mais il n'y a pas des projets communs. Et imaginez, il n'y a pas un seul mot sur une plus de coopération sur une politique d'asile et d'immigration, ce qui est quand même très important, une des questions clés qui sont en train de diviser l'Europe. Là, il n'y a rien dans cette traité.
Béatrice Engrand, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je comprends certaines frustrations. Dans le même temps, j'ai l'impression que ce traité, je l'analyse plutôt comme un point de départ, alors que d'autres considèrent que ça doit être déjà une liste de décisions et de mesures à mettre en place. Et si on regarde bien, d'ailleurs, c'est intéressant, la chancelière a bien voilà, en protestante, elle a fait une analyse théologique du texte tout à l'heure pendant son discours, et elle a bien insisté, en présentant les différents chapitres, sur le fait que c'est plutôt un point de départ, c'est plutôt un cadre de travail qui donne des directions. Donc, pour certains, ça peut être frustrant, mais j'ai l'impression que c'est aussi un texte qui dit à la société civile, aux chefs d'entreprise, aux élus locaux, ben, emparez-vous d'un nouveau cadre, transformez-le et faites quelque chose. Et en premier chef, les citoyens, en tout cas pour ce qui concerne le travail d'une institution comme l'OFAGE, les citoyens, j'allais dire les personnes, hein, sont replacés au centre de ce traité avec un fonds pour la société civile, avec aussi des moyens renforcés, des moyens financiers renforcés pour l'OFAGE, pour lui permettre de toucher des publics différents. Donc voilà, pour moi c'est un levier plus qu'une série de mesures.
Jens Althoff, est-ce que l'Allemagne est déçue d'Emmanuel Macron? On a l'impression qu'il y a eu ces propositions pour une refondation de l'Europe, ce discours de la Sorbonne, et puis qu'il y a eu un intérêt poli à Berlin et que finalement on n'a pas été si loin que ça.
Ah, il me semble plutôt que malheureusement c'est l'Allemagne qui freine. Il y avait quand même dynamisme, il y avait des propositions de Macron, il y a quand même la France qui a dit maintenant on veut vraiment avancer, on veut faire quelque chose, et ils sont attendus, il y avait pas grand chose de la part de l'Allemagne.
Et pourquoi?
Parce que la situation en Allemagne est d'abord, il y avait pas de gouvernement.
C'est ça.
Puis il y a un gouvernement où on doit dire très clairement, il y a pas vraiment quelqu'un qui est vraiment européen, qui veut vraiment pousser pour renforcer l'Europe. Ça s'est dit toujours, tout le monde le dit, en Allemagne on veut renforcer l'Europe, mais dès qu'on est vraiment sur du mesur concrète, ils sont en train de freiner et de freiner. Et là aussi, on a quand même une chancelière qui est affaiblie. Elle n'est pas vraiment capable parce que tous les conservateurs sont complètement sous la pression de l'extrême droite, très fortement, ce qu'on a vu aussi avec les élections en Bavière. Donc malheureusement, on doit vraiment dire, il y a des mots qui disent on veut renforcer l'Europe, mais si vous regardez, il y avait beaucoup de propositions du côté français, comment on pourrait renforcer. L'Allemagne a dit beaucoup non, 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 niet, niet, mais il y avait peu de propositions du côté de l'Allemagne. Qui ont dit oui, on veut pas ça, mais on veut faire ça et ça pour renforcer l'Europe. Ils sont où là les propositions de l'Allemagne?
Oui. Les divergences, pardon, Béatrice Sangrand, les divergences, ce sont un peu les mêmes depuis plusieurs années. On les connaît, notamment sur les questions économiques et budgétaires. L'Allemagne se méfie de la propension française à faire du déficit public, ne veut pas remettre en question ses excédents commerciaux pour relancer. Et puis surtout, il y a cette question du budget européen dont on ne veut absolument pas entendre parler à Berlin.
Alors, comme vous le dites justement, Guillaume Nodin, il y a des différences qui existent depuis longtemps.
C'est des différences culturelles pratiquement.
Pas, hein. Voilà, en fait, bon, elles sont un peu liées quand même aux partenaires politiques. Peut-être que si c'était un autre partenaire politique, la SPD, la FDP, je sais pas, j'espère pas la AfD, peut-être que ce serait un peu différent. Mais il y a quand même, c'est vrai, des différences interculturelles qui sont fortes. Et il me semble que cette relation, elle est faite de ça. On investit beaucoup, on a beaucoup de... Et c'est très bien d'attendre beaucoup de cette relation, mais je crois aussi qu'il faut accepter que c'est une relation qui est faite un peu de raison, un peu d'obligation, qui est indispensable pour l'Europe. Juncker l'a encore rappelé aujourd'hui. On a besoin que la France et l'Allemagne soient d'accord pour que l'Europe avance. Et il faut accepter que ces deux pays partent de points de vue très différents. Effectivement, le rapport à l'argent, c'est différent. Mais quand même, l'histoire a montré que comme ces pays partent de points de vue très différents, quand ils trouvent un compromis, et c'est vrai que c'est plutôt un compromis en général, les décisions franco-allemandes, en général ce compromis il est aussi acceptable par les autres pays d'Europe, et je crois que c'est cette corde-là qu'il faut continuer à jouer. Et puisqu'on a ici sur RFI des auditeurs dans le monde entier, je voulais dire aussi que moi qui circule beaucoup hors de la France et l'Allemagne pour présenter cette idée franco-allemande, faut savoir que nous on est peut-être insatisfaits, mais qu'ailleurs dans le monde c'est vraiment une source d'inspiration exceptionnelle. Il y a par exemple dans les Balkans un office d'échange de jeunes qui a été créé sur le modèle de l'OFA. J'ai reçu récemment des gens de la société civile du Maroc qui me disaient mais c'est sûr que cette idée franco-allemande elle devrait inspirer les relations entre l'Algérie et le Maroc, pas, bon l'autre jour avec des Coréens, et voilà, ça je crois crois qu'il faut, il faut pas l'oublier, il faut le rappeler aussi aux décideurs politiques parce que ça les rappelle à leurs obligations d'entendre les attentes non seulement des Européens mais surtout du monde.
Ian Saltoff, est-ce que par exemple au moment de cette crise des gilets jaunes en France, on se dit en Allemagne, voilà, les Français, ils ont encore lâché 10 milliards d'euros. On peut pas leur faire confiance pour tenir leurs finances publiques. C'est ça qui a la petite musique dans la tête des Allemands. Ça compte beaucoup, ça?
Ça, je crois pas, parce que c'était quand même vu aussi en Allemagne, pris très très au sérieux, qu'il y a un mouvement, et que justement, la question de la justice sociale, c'était aussi débattu en Allemagne. Ça, je vois pas, mais il y a vraiment quelque chose, où moi, je suis fasciné. En Allemagne, les gens, aussi, le débat public, l'Allemagne est très persuadée déjà de s'engager beaucoup pour l'Europe. De faire beaucoup pour l'Europe. Déjà. C'est un peu l'idée. Et le reste de l'Europe a pas du tout cette impression. Mmh. Le reste de l'Europe a vraiment l'impression que l'Allemagne est très fort économiquement, ça a beaucoup de responsabilités.
Qu'elle pourrait faire plus en fait.
Voilà, qu'elle pourrait faire plus. Mmh. Mais en Allemagne, moi je suis souvent dans des discussions en Allemagne, et les gens ils disent « Ah mais voilà, mais nous on fait déjà beaucoup, et regardez la France ». Et il y a un peu cette idée, qui moi je crois que c'est une idée fausse, mais il y a cette idée qu'on a quand même en France les conditions de travail, tout ça, ça serait beaucoup mieux. Pour les gens, parce qu'on travaille que 35 heures, c'est pas dans la réalité selon le cas, mais
que c'est fini, c'est
voilà.
Vraiment.
Mais quand même, c'est l'idée qu'on a, qu'on part plutôt dans la retraite et tout. Et il y avait quand même cette idée, un peu en Allemagne, on ne veut pas payer ces conditions en France. Mais c'est aussi vraiment une manque de connaissance, parce qu'on ne connaît pas vraiment la condition de vie et la condition de vie dans beaucoup des coins en France. Où quand même les gens ils travaillent très très dur et justement ce qu'on a vu avec les gilets jaunes que souvent ils sont vraiment confrontés à la situation d'avoir plus rien à la fin du mois. Ça c'est quelque chose parce qu'en Allemagne on doit dire l'Allemagne est dans toute une autre situation. On est pris de la grande crise financière. L'Allemagne a eu vraiment une forte croissance et la situation s'est améliorée. Donc pour la plupart des gens ils sont dans une situation souvent qui est beaucoup mieux que pour les gens en France.
Oui, Béatrice Sandrin. Dans le même temps, on a presque 18%, je crois, hein, d'Allemands qui seraient prêts à voter pour l'AFD, donc qui traduisent par là un mécontentement très fort, une frustration. Beaucoup de ces électeurs potentiels de l'AFD sont voilà des Allemands de l'Est qui ont le sentiment de ne pas avoir été emportés par ou de ne pas avoir bénéficié de l'unification. Donc peut-être que le malaise, les difficultés sociales, les revendications sociales s'expriment pas forcément de la même manière dans les deux pays, mais je crois voilà. Je crois qu'elles existent aussi en Allemagne, hein. D'une manière assez inquiétante, je trouve.
Il y a un peu de oui, vas-y.
Là, je veux quand même dire, c'est vrai, absolument, mais ce qui est frappant, surtout avec l'extrême droite, elle est aussi votée dans des régions qui sont économiquement
aussi,
très, très fortes.
Aussi, bien sûr, en France aussi.
Donc en Allemagne, vous voyez souvent que les liens entre de dire que ce serait seulement économique, l'extrême droite, c'est un peu plus difficile. Ouais. Ce que vous avez en Allemagne, c'est vrai, pour la première fois, surtout, vous avez une force anti-européenne, justement, qui est là, et qui, il semble qu'il y a quand même une telle pression, mais aussi en France et en Allemagne, que les deux n'osent même pas de mentionner le mot immigration dans un traité. Et ça, aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même une grande question.
D'ailleurs, le porte-parole de Merkel l'a dit dans un, je crois, Berliner Zeitung ou dans un journal allemand hier, il a dit, c'était intentionnel, on a mis cette question de côté. Vous avez raison, Jens Althoff, c'est l'AFD, c'est aussi des gens plutôt, enfin, également des gens nantis qui ont ce stress identitaire, cette angoisse identitaire qui peut aussi exister en France. Mais voilà, je crois qu'il y a des insatisfactions. Les insatisfactions sont fortes des deux côtés, en fait.
Il y a aussi le problème d'inégalité. Ça, c'est
bien sûr.
D'ailleurs, qui est en train de accroître aussi. Mmh.
Est-ce que vous en avez un peu parlé dans ce mariage? On a bien compris que c'était un mariage peut-être plutôt de raison. Hein, il y a une volonté de montrer l'exemple de l'union et de la coopération au reste de l'Europe et du monde, Jens Althoff.
Oui, ça c'est, et je crois que c'est quand même.
Il y a une volonté de montrer que c'est possible, quoi.
C'est possible, et c'est quand même très impressionnant. Je veux dire, la coopération entre les deux, et si vous voyez aussi les images qui ont le français des Allemands et vice versa, ça montre quand même que là, il y a vraiment des partenaires, on se sent très proches.
Ouais.
Ça c'est très important. Il y a aussi des petits pas qui sont importants dans ces traités. Par exemple, il y a pour la première fois un fonds citoyen commun qui veut soutenir des initiatives citoyennes, qui veut soutenir des villes. Donc, là, vous avez vraiment un élément qui est extraordinaire. Mais moi, il me semble quand même dans le temps et qu'on a situé que nous sommes, c'est pas suffisant. Oui. Il faut maintenant que c'est vraiment une locomotive, que c'est vraiment un tandem qui tire les autres et qui n'est pas seulement satisfait d'être un bon partenaire, qui est, d'être proche, ça c'est vrai. Mais là, vraiment, le défi est le plus grand. Le défi, c'est que le centre franco-allemand doit avancer.
Mais ça, je peux comprendre ça. J'étais en même temps assez heureuse de constater avec la chapelle que les décideurs européens étaient là. Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, ce qui est rare dans les messes, entre guillemets, franco-allemandes. Aussi le président de la Roumanie, qui en ce moment préside donc l'Union européenne, le Conseil européen. Donc ça, c'est quand même une avancée, hein, le fait qu'on sorte, qu'on sorte du tête-à-tête. Et moi, comme je dis, je comprends les frustrations, mais quand je les entends, j'ai aussi envie de dire, mais c'est mieux que rien, en fait. Parce que s'il n'y avait rien, je crois que ce serait pire. Peut-être qu'il faut accepter une politique des petits pas et que les chercheurs, les citoyens, les jeunes gardent un niveau d'exigence pour pousser les politiques à faire davantage. Et je crois que c'est la relation franco-allemande, c'est quand même une des seules au monde qui est à ce point commentée par le grand public. Hein. Donc ça oblige aussi les politiques. Ça, c'est important.
Est-ce que le fait que le reste de l'Europe, je pense évidemment à l'Europe de l'Est, les pays du groupe de Visegrad, les pays d'Europe du Sud ne semble plus vraiment avoir la volonté de se ranger derrière le couple franco-allemand. Est-ce que ça le rend de plus en plus nécessaire, Jens Althoff ?
Absolument, mais ça rend aussi nécessaire de vraiment pouvoir présenter des projets et des idées pour rassembler les autres. Et avoir des idées, et vraiment avoir quelque chose, et pas seulement faire. Et ça, je vois un peu le problème, parce que c'est vrai, des petits pas, c'est important, c'est mieux des petits pas que pas du tout des pas, ça c'est sûr. Mais là, il faut les grands pas, et il faut les grands pas. Et justement, il faut aussi présenter quelque chose, il faut vraiment montrer que là, il y a un couple qui est possible de vraiment avoir des idées pour l'Europe, pour le projet aussi, mais bien sûr avec cette attitude que tout le monde est bienvenu et que vraiment il veut pas le faire tout seul, mais il veut justement inviter tout le monde, et c'était justement ça aussi le rôle du couple franco-allemand pour l'intégration européenne.
Le domaine de la défense, de l'armement, c'est le domaine où la volonté de coopération est la plus évidente ces derniers temps. Il y a des programmes militaires communs, d'avions de combat, de chars d'assaut. Il y a le souhait d'une armée européenne. C'est pour quelle raison, selon vous, Béatrice Engrand? Il y a une petite peur de l'instabilité américaine aussi, peut-être, derrière?
Oui, en tout cas, ce traité, il arrive à un moment où l'Europe se délite, où la France et l'Allemagne ont de moins en moins d'interlocuteurs, où la Grande-Bretagne veut quitter l'Union dans des conditions encore inconnues. Et effectivement, les États-Unis, il n'y a même pas un point d'interrogation.
Ça, Angela Merkel l'a compris, elle le dit depuis des mois.
Elle le dit depuis le début, wir sind auf uns angewiesen, ça veut dire, aujourd'hui, on peut compter que sur nous-mêmes. Je vois que votre allemand est parfait.
Et c'est un peu rouillé, je vous
dis. Donc, c'est vrai que c'est une forme de protection. Je voyais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on signe un traité de réconciliation et en fait, c'est pour reconstituer une armée. Je tiens vraiment à rappeler que ce traité, c'est pas un traité de réconciliation. La réconciliation, elle est faite. C'est vraiment un traité de coopération. Donc, pourquoi pas essayer de mettre ses forces en commun pour répondre à des ennemis qui viendraient de l'extérieur, et on serait naïf de croire qu'il n'y en a pas. Mais ce que j'aime bien dans ce traité, c'est qu'il dit aussi travail sur les cultures militaires communes. Donc il y a aussi une prise de conscience qu'on vient de, les uns et les autres viennent de positions différentes, éloignées.
Chacun apporte sa pierre dans cet édifice. Hein. Apparemment, le char, il va être plutôt allemand et l'avion plutôt français. Jens Althoff, c'est ça? C'est ce qu'il faut comprendre.
Oui, mais si c'était si simple que ça, je dois dire d'une certaine façon, ce serait plus facile. Mais là, justement, premièrement, c'est absolument vrai. C'est très urgent de travailler, de coopérer plus, vu la situation dans le monde, vu le comportement de Trump, vu ce qui se passe. Par contre, là, c'est aussi très, très, vraiment urgent de plus travailler ensemble et de plus voir, de se comprendre. Et là aussi, le côté français comprend souvent pas qu'en Allemagne, c'est quand même très, très différent, avec une armée qui est complètement sous la direction du Parlement d'autre, avec toute une autre tradition aussi, avec la contrôle, l'exportation d'armes et autres questions.
Mais si parler...
Merci beaucoup. beaucoup. Pardon. Je suis désolé, Béatrice.
Je vous en prie, c'est la passion.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous deux, Béatrice Sandroy et Yann Saltoff, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur nos environnements numériques. Prochain demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.